Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous avons le meilleur système de santé du monde. Combien de fois avons-nous entendu cette affirmation? Mais les faits sont têtus, même si l'hôpital respire encore. Il est au bord de l'asphyxie. Vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, comment va la santé en France? On pose le diagnostic ce matin. Pandémie de Covid, épidémie de bronchiolite, deux phénomènes distincts, un résultat identique, des urgences saturées et un personnel épuisé. L'hôpital public va mal. Pour comprendre comment on a pu en arriver là, eh bien, il faut remonter à la fin des années 90, Céline Giraud.
Oui, en 96, avec le premier plan d'austérité imposé par l'État, cette course à la rentabilité cumulée avec une demande de soins croissante épuise les effectifs, entraînant une dégradation considérable des conditions de travail. Deuxième fracture, 2002, l'hôpital passe aux 35 heures. Mais faute de moyens et de candidats, il y a peu d'embauches et plus de patients. L'absentéisme s'envole et le recours accru aux intérimaires très coûteux désorganise encore un peu plus l'hôpital.
Et là, Céline, on arrive au point de rupture. 2009, l'adoption de la loi HPST, Hôpital, Patients, Santé, Territoire.
Oui, car cette réforme donne le pouvoir à un directeur administratif. Conséquence, la culture de la rentabilité écrase celle du patient et l'hôpital bascule dans une autre dimension. Frédéric Bizard, économiste de la santé.
Il y a une telle tension à l'hôpital aujourd'hui que cette bonne cogestion, elle est aussi humainement impossible. Et donc là, on a les mauvais pilotes et dans un environnement qui se dégrade. Donc il faut comprendre qu'on est dans un cercle vicieux.
Un cercle vicieux que le gouvernement tente d'enrayer avec des rallonges financières spectaculaires. La dernière, lundi, s'élevait à 543 millions d'euros.
Céline Giraud, chef du service société d'Europe 1.
L'hôpital sous tension, l'Assemblée nationale également, fin de séance électrique. Hier soir, il était justement question de la réintégration des soignants non vaccinés.
Une proposition de loi examinée dans le cadre de la niche parlementaire réservée à la France insoumise. Pour avoir une chance de passer, le texte devait être voté avant minuit. Les députés de la majorité présidentielle ont donc joué la montre jusqu'à couper la parole de leurs adversaires, d'où cette réaction agacée d'Olivier Servat, député de Guadeloupe.
Je vous regarde, chers collègues, vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfaite, vous réjouis. Tu vas la fermer.
Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective, monsieur Servat, non.
À la séance houleuse à l'Assemblée, les députés de la gauche et de la majorité sont en revanche tombés d'accord sur l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Texte adopté très largement, il doit passer maintenant devant le Sénat, plutôt hostile à cette idée.
Alors, est-ce une illustration terrible du manque de moyens? La surveillance a-t-elle fait défaut à l'hôpital Cochin à Paris? Une patiente a été violée par un autre patient dans la nuit du 28 octobre.
Cette femme de 34 ans a été admise après une mauvaise chute à la sortie d'une soirée sur une péniche. Un homme la repère et simule à son tour un malaise pour être emmené lui aussi dans le même hôpital. Et c'est à son arrivée qu'il serait passé à l'acte un double choc pour la trentenaire, David Montagnier.
Oui, parce que les faits se déroulent au sein même de l'hôpital. À 4h du matin, le suspect profite de sa présence aux urgences pour faire le tour des box et trouver la victime qu'il avait repérée pour la violer. Les cris de la jeune femme alertent un infirmier, mais l'agresseur parvient à s'enfuir. Il ne sera arrêté que plus tard dans la soirée. La victime de 34 ans s'interroge sur les mesures de sécurité au sein de l'hôpital, selon son avocat, maître Alexandre Lobry.
Ma cliente, elle est traumatisée des faits criminels qui se sont passés au sein de l'hôpital. Aujourd'hui, son sentiment, c'est comprendre ce qui s'est passé, puisque généralement, un hôpital, on devrait se sentir en sécurité. On y va pour être soigné, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Si les faits sont avérés, c'est extrêmement préoccupant et très grave.
La victime a annoncé avoir déposé plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Selon elle, l'hôpital Cochin n'a pas pris toutes les mesures pour assurer sa sécurité alors qu'elle était inconsciente sur son lit. De son côté, la PHP confirme simplement qu'une patiente a bien été agressée, mais se refuse à commenter une enquête en cours.
David Montagnier, le suspect, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Ce Jordanien en situation irrégulière de 22 ans est déjà connu des services de police. Il était sous le coup d'au moins deux OQTF sous deux noms différents. Le parquet national financier ouvre deux informations judiciaires sur le financement des campagnes 2017 et 2022 d'Emmanuel Macron. Il s'intéresse au lien entre le président et le cabinet McKinsey. Et
nous sommes le 24 novembre. Le réveillon de Noël, c'est dans un mois pile. C'est aussi le coup d'envoi ce jour du Black Friday, la chasse aux bonnes affaires.
La fête commerciale importée des États-Unis est largement adoptée par les commerçants, mais on constate déjà certaines dérives. Baptiste Morin.
Le Black Friday, c'est le chiffre d'affaires de l'année. 748 millions d'euros en 2021 en France, en ligne et dans les magasins. Il a détrôné les fêtes de fin d'année et les soldes. Il faut dire que ce qui était à l'origine une seule journée de promotion s'est étalé avec le temps pour devenir au moins une semaine. Cette année, la Redoute a ouvert les hostilités dès le 9 novembre. Boulanger, dès le 15, Sephora, Amazon ou encore la Fnac ont choisi le 18 novembre. Et au fil du temps, de plus en plus de produits, de magasins en profitent. Thomas Graffanino, expert du commerce chez Sia Partners.
Ça partait du e-commerce et principalement sur le high-tech. Et l'année dernière, ce qu'on a vu, c'est que l'alimentaire a fait pratiquement plus 6% par rapport à ce qu'il faisait d'habitude sur un vendredi normal.
Plus de promotion, mais moins de lisibilité. Certaines enseignes n'hésitent pas à gonfler les prix dans les semaines précédant le Black Friday pour pouvoir afficher une réduction qui semble alléchante le jour J. Pour la première fois cette année, l'Europe a fixé des règles pour éviter ces pratiques, mais il reste à savoir si elles seront respectées.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle.
Et nous partons donc à Doha. L'info de la soirée, c'est la victoire du Brésil 2-0 face à la Serbie. Il y a eu de la joie et des larmes dans le camp brésilien.
La joie de Richarlison, auteur d'un magnifique ciseau retourné. C'est le but de ce début de Coupe du Monde. Soirée presque parfaite, sauf que la star Neymar s'est blessé à la cheville et la cheville. Et ça pourrait tout changer, Dimitri Vernet.
Et oui, il faut dire que c'est tout un pays qui s'est arrêté sur cette image. Neymar, tête basse, cheville gonflée. Les larmes coulant sur son visage, laissant craindre le pire pour le diamant brésilien. Son nom, Neymar, était donc sur toutes les lèvres en sortie de match avec ses premiers mots du médecin de la Seleção.
Il s'est fait une entorse à la cheville droite. On n'a pas encore eu le temps de faire un premier bilan complet, mais la cheville a déjà un peu gonflé. C'est important d'attendre quelques heures et voir comment il va réagir. Maintenant, c'est juste une question de calme et un peu de patience.
Et même s'il faut attendre des examens plus approfondis, sa présence pour la suite de cette Coupe du Monde semble bien compromise. Pourtant, le sélectionneur brésilien Tite se veut, lui, bien plus optimiste.
Vous pouvez être sûr que Neymar va rejouer dans cette Coupe du Monde. J'en suis sûr et certain. Neymar va rejouer.
Alors Neymar retrouvera-t-il les terrains qataris? Réponse dans les prochaines heures. En attendant, les Brésiliens retiennent leur souffle.
Dimitri Vernet.
La Coupe du Monde, les Chinois, eux, ne la jouent pas. Ils la regardent à la télévision et d'ailleurs, ça les met en colère.
Hein. Oui, que voient-ils grâce aux images qui leur parviennent du Qatar? Des spectateurs sans masque assis côte à côte dans les tribunes. Pas une trace de restrictions sanitaires, de quoi leur rendre insupportable la politique zéro Covid et les confinements à répétition imposés par leurs dirigeants. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Pékin, Sébastien Le Belzig.
C'est chez eux que la plupart des Chinois doivent suivre la Coupe du Monde. Les bars sont fermés et interdiction d'organiser des soirées foot entre amis, alors que plus du quart de la population est confinée. À Pékin, l'ambiance n'est pas à la fête, alors quand cette jeune femme découvre à la télévision des stades pleins et des spectateurs sans masque, elle s'étonne.
Je me suis rendu compte d'un seul coup que tout le monde vit là, sans masque. Chacun fait ce qu'il veut. Un stade, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes sans masque. Mais pourquoi ici, en Chine, la situation est-elle si différente?
Certains sont même furieux derrière leur écran. Écoutez ce jeune Chinois, fan de football.
Pourquoi les Chinois sont-ils différents du reste du monde? Parce que notre santé est plus fragile? Parce que le variant Omicron y est plus fort? Il n'y a aucune raison. Ils nous forcent à rester à la maison.
Les seuls finalement à se frotter les mains sont les chaînes de télévision, dont CCTV 5, qui diffuse tous les matchs du mondial, avec une audience estimée à 700 millions de téléspectateurs. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
Et puis tiens, à propos de la Coupe du Monde et des masques, eh bien, sachez que les vêtements aux couleurs LGBT sont finalement autorisés en tribune au Qatar, annonce officielle de la FIFA.
Mais bien entendu, ça n'est pas de la politique, mon cher Christophe. Merci à vous. Europe